Élève avec force ta voix. Élève ta voix et ne crains point. Verset 10 et 11. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient. Un rédempteur viendra pour Sion, et nous pouvons dire pour Mahanaïm, ça c'est dans un autre chapitre d'Ésaïe, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Et cette dernière parole, verset 21 du chapitre 59 d'Ésaïe, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Je veux croire que ces paroles se réaliseront. Notre premier camp familial s'est terminé ce matin. Et nous l'avions ouvert par ce texte du psaume 84, verset 12. L'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la joie. Et nous voulons croire que nous avons pu réaliser que le Seigneur a été pour nous dans ces journées passées un soleil. Il a réchauffé nos cœurs. Et un bouclier. Il nous a préservés de tout accident, de toute maladie. Puis il a donné la grâce. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Puis nous savons qu'il nous donnera la gloire. Alors nous sommes pleins de reconnaissance pour le Seigneur qui nous a secourus jusqu'ici de telle manière que nous pourrions élever une pierre en disant « Ebenezer, hein, le Seigneur nous a secourus jusqu'ici ». Mais je me demandais pourtant ce que le Seigneur ferait pour ce second camp. Pour tous, les tâches du premier camp ont été nombreuses et une certaine fatigue pourrait se faire sentir. Mais le Seigneur me rappelait, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Alors nous faisons éperdument confiance au Seigneur, afin qu'il nous donne et qu'il vous donne à vous, dans ce second camp, une double bénédiction. Est-ce que vous croyez qu'il peut vous donner une double bénédiction ou une double part, comme il l'est dit au chapitre 61 d'Ésaïe, verset 7. C'est cette promesse que j'ai reçue pour vous. Dans ce second camp, nous pouvons, si nos cœurs sont ouverts, recevoir une bénédiction double de ce qu'a été la bénédiction du premier camp. Nous devons toujours croire à cette possibilité. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant jusqu'au plein milieu. Alors nous voulons croire cela et que Dieu le fera. Alors je voudrais maintenant vous demander si tous ici connaissent la signification du mot Mahanaïm. Parce qu'il faut savoir où vous êtes et pourquoi vous êtes à Mahanaïm. Quelle est la signification de Mahanaïm? Si vous avez vos Bibles, et je veux croire que vous avez vos Bibles, et que vous les lisez, vous trouveriez plus de 12 à 15 passages qui parlent de ce nom Mahanaïm. Mais la première fois qu'un lieu a été appelé Mahanaïm, c'est quand Jacob revenait de 20 années d'exil et qu'il a su que son frère Ésaü, qu'il avait trompé et qui voulait le tuer 20 ans plus tôt, venait à sa rencontre avec 400 hommes. Et il a eu très peur. Et il a prié. Et à ce moment-là, il a eu une vision de deux cohortes d'anges qui venaient à lui. Et quand il a vu ces anges qui l'entouraient, il s'est écrié, « Mais c'est le camp de Dieu !» D'où est sorti le nom Mahanaïm. De sorte que ici, vous n'êtes pas dans le camp d'une association quelconque, religieuse ou autre, mais vous êtes dans le camp de Dieu. Ce Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime. Vous êtes dans son camp. Et nous voulons croire que vous éprouverez sa présence. Je pense que vous avez lu le prospectus du camp. Il semble que certains ne l'ont pas lu. Je ne sais pas alors comment ils ont su qu'il y avait un camp. Mais si vous aviez lu le prospectus du camp, vous ne vous poseriez plus de questions au sujet de Mahanaïm parce que c'est indiqué d'où est sorti ce nom. Puis, quant au but de ce camp, je voudrais croire aussi que vous l'avez lu. Le but, c'était de découvrir ensemble, en étudiant le livre des Actes des Apôtres, comment les premiers chrétiens suivirent les ordres du Seigneur. Quelle fut dans la vie des disciples la manifestation du si grand salut accompli pour eux et leur famille par Jésus-Christ? Le but, disions-nous, d'une vraie conversion, serait-il simplement d'éviter une perdition éternelle, ou serait-il davantage de devenir dans la main de Dieu les instruments de son cœur pour l'accomplissement joyeux de sa volonté dans notre vie quotidienne? Pour que le monde croie à l'évangile que nous devons prêcher, il a besoin de voir des familles, des parents et des enfants en qui habite ce qu'on appelle l'amour agapé de Dieu et non une simple affection pour Dieu, ce qui est appelé dans l'Écriture l'amour philia, une amitié qui vient d'un cœur naturel, humain. Est-ce que nous connaissons l'amour agapé de Dieu, cet amour total, ou bien est-ce que nous avons simplement un peu d'affection pour le Seigneur, une affection naturelle? Si nous réclamons de Jésus-Christ, notre raison de vivre n'est-elle pas de servir Dieu en aimant nos enfants, nos parents, notre prochain, comme nous-mêmes? Et voilà, nous continuons, et je veux croire que vous avez lu quel est le but de ces rencontres. Vous avez vu que nous avons mis comme thème « Vous serez mes témoins ». C'est une parole de qui? De Jésus. De Jésus ressuscité. Et on trouve cette parole dans le chapitre 1er des Actes, au verset 8. Et ce livre des Actes va être la toile de fond de tous nos messages pendant ces 7 jours que nous allons passer ensemble. Comme le livre a servi déjà de toile de fond pour la première semaine. Combien de chapitres trouve-t-on dans le livre des Actes? Quel fait? 28. Hein? Il y a 28 chapitres dans le livre des Actes. Et j'avais à cœur que pendant ces 15 jours, nous puissions couvrir le livre des Actes, mais toujours en revenant sur ce thème, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que Dieu attend de nous comme témoignage? Alors, ce livre, aux 28 chapitres, qu'on appelle les actes des apôtres, on pourrait aussi les appeler les actes du Saint-Esprit, ou encore les actes du Seigneur lui-même, dans les apôtres. C'est Jésus qui opérait. Alors, qui a écrit ce livre des actes? Simplement pour en connaître l'auteur, c'est... Non, c'est pas Paul. C'est Luc. Et quel était le métier de Luc? Il était médecin. C'est ce que nous avons vu dans le camp précédent. Et Paul était très heureux d'avoir ce médecin avec lui. Il l'appelait le médecin bien-aimé. Et Luc était le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et à qui a-t-il adressé ce livre des actes? À un certain Philémon. Quand vous lisez ce livre des actes, vous voyez le nom de celui à qui il a adressé ce livre, c'est Philémon. Est-ce que c'est son premier livre que Luc avait écrit? Ou bien est-ce que vous savez s'il avait écrit un autre livre? Il avait écrit l'Évangile de Luc. Pour qui? Pour ce Philémon-là. Hein? Pour cet excellent Philémon qui semble avoir été un homme riche, un homme respectable, ayant une fonction peut-être dans l'administration, et qui s'était converti au christianisme, et qui voulait connaître le Seigneur. Alors, Luc lui a écrit pour lui cet évangile que nous connaissons, qui est l'évangile de Luc. Et ensuite, quand l'évangile de Luc finit par l'ascension du Seigneur, Jésus ressuscité est remonté au ciel, alors il a écrit les actes des apôtres, la suite de son livre, pour que Philémon sache ce qui était arrivé aux disciples de Jésus qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, puis voilà que Jésus est au ciel. Alors, que vont faire les disciples? Qu'ont fait les disciples? C'est le sujet que traite le livre des actes. Et nous avons étudié pendant la première semaine 14 chapitres du livre des actes. Les 14 premiers chapitres. Et puis, nous allons maintenant continuer. De sorte que si vous voulez savoir ce que nous avons pu considérer, vous avez du temps pendant cette semaine, et je trouve que ce serait très profitable pour vous que vous fassiez dans vos moments de loisir cette lecture des 14 premiers chapitres, de sorte que vous seriez bien au courant de ce qui s'est trouvé dans ces 14 premiers chapitres, et nous étudierons ensuite les 14 derniers chapitres. Et pour résumer très brièvement, et puis pour aider à la mémoire de chacun dans le premier camp, nous avons proposé de mettre un titre à chaque chapitre. Et ces chapitres, après ces titres, on les apprend par cœur et on sait ce qui se trouve dans le premier chapitre, dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, dans le chapitre 4. Ça nous aide beaucoup, n'est-ce pas? On leur disait aussi que pour connaître la succession des épîtres de Paul, Paul a écrit l'épître aux Romains, ensuite l'épître aux Corinthiens, il y a 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ensuite il y a l'épître aux Galates, ensuite l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, puis 1 et 2 Thessaloniciens, puis 1 et 2 Timothée, puis Tite et Philémon, n'est-ce pas? Il y a 13 épîtres. Alors, pour les apprendre très vite, on dit Rococo Galéfico, tete, tititi, fi. Hein? Alors, vous savez l'ordre des épîtres. Hein? Ro, c'est Romain, Coco, c'est 2 Corinthiens, hein? Il y a 2 Corinthiens, Rococo, Gal, Galate, Es, et c'est Éphésien, Fi, c'est Philippien, c'est Colossiens, et puis après Colossiens, il y a 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, et puis 1 Timothée, 2 Timothée, et après Tite, et puis ensuite Philémon. Hein. Alors, si vous les apprenez par cœur, vous pouvez tout de suite vous retrouver. Rococo Galésico, tititi, si. Bon, alors, vous voyez, c'est très facile. Alors, si vous mettez aussi un titre à chaque chapitre de du livre des Actes, vous pouvez les apprendre très facilement. Dans le chapitre 1er, c'est le récit de l'ascension du Seigneur. Dans le chapitre 2, c'est le récit de la Pentecôte, comment le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Dans le chapitre 3, c'est la guérison du boiteux de la belle porte à Jérusalem, la guérison opérée par le Seigneur au moyen de l'apôtre Pierre, qui dit à ce mendiant qui s'attendait à recevoir de l'argent de Pierre, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, hein, mais ce que j'ai, je te donne. Alors on a mis comme titre, ni argent ni or, hein, pour se rappeler ce qu'il y a dans le chapitre 3. Puis dans le chapitre 4, conséquence de cette guérison, Pierre et Jean ont été arrêtés. Alors on a mis chapitre 4, première arrestation. Chapitre 5, deuxième arrestation. Il y a eu deux arrestations des apôtres. Puis au chapitre 6, on a mis comme titre les diacres. C'est dans ce chapitre 6 que nous avons l'institution des diacres. Puis au chapitre 7, c'est l'histoire du premier martyr chrétien qui s'appelle Étienne. Alors on a mis le titre Étienne. Puis au chapitre 8, on voit un second diacre qui s'appelle Philippe. Et l'œuvre de Philippe en Samarie se trouve racontée dans le chapitre 6, et aussi la conversion de l'eunuque d'Éthiopie, le premier noir qui est venu à l'évangile et qui a été enseigné par Philippe. Puis au chapitre 9, nous avons la conversion de qui ? De Saul de Tarse. Alors on a mis comme titre Saul de Tarse. Puis on est arrivé au chapitre 10 et qui nous parle de ce militaire, Corneille, qui était à Césarée Maritime et qui lui aussi a été visité par Dieu et grâce à l'apôtre Pierre, et qui n'a pas refusé de venir l'enseigner, il a cru, lui et toute sa maison, et c'est comme ça que l'évangile a commencé de pénétrer chez les païens. Au chapitre 11, nous avons vu qu'à cause des persécutions qui sévissaient depuis le martyr d'Étienne, les gens ont dû quitter Jérusalem, mais au lieu d'aller apporter de mauvaises nouvelles et de se plaindre qu'ils avaient tout perdu et qu'ils avaient tout quitté, eh bien, nous avons vu qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle partout où ils allaient, où ils étaient chassés, et qu'il y a eu des fruits de leur témoignage, ils ont été des témoins, et ce sont les gens du monde qui ont appelé les disciples du Christ, comment, de quel nom ? Chrétiens. Alors, le chapitre 11, on l'a intitulé « Chrétiens », puis ensuite, au chapitre 12, on est arrivé à voir le roi Hérode, un méchant roi sanguinaire qui a fait décapiter le premier apôtre, Jacques, et qui a fait emprisonner Pierre et qui voulait aussi le tuer le lendemain. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui est arrivé? Un ange a ouvert la porte de la prison et a délivré l'apôtre Pierre. Et dans ce même chapitre où Hérode voulait tuer Pierre, on a vu la mort d'Hérode. Alors c'est toute la vie d'Hérode qui résume ce chapitre. Et on est arrivé au chapitre 13 et 14 de ce livre des Actes qui nous raconte le premier voyage de l'apôtre Paul, ce Saul de Tarse qui s'est converti et qui est devenu l'apôtre Paul et qui est parti là de Antioche, là où on a donné aux disciples le nom des chrétiens, et il est parti avec un collègue, Barnabas, c'est ce que vous trouvez dans ce livre des Actes. Ils ont été par bateau jusqu'à l'île de Chypre. Là, ils ont prêché l'évangile, sont arrivés à Paphos, où l'apôtre Paul a eu une conversion remarquable d'un des gouverneurs de l'île, et puis il a opéré aussi un miracle dans le sens qu'il y avait un faux prophète qui s'opposait et il est devenu aveugle à la parole de Paul pour un temps, donc, pour réfléchir. Puis ensuite ils sont arrivés à Athalie et puis à Serge,
ils évangélisaient toujours, et quand ils sont arrivés à une autre ville qui s'appelait Antioche, ils ont annoncé l'évangile, mais il y a eu beaucoup de troubles, et ils ont dû partir, ils sont partis à Iconium, et de là à Iconium, ils ont été aussi persécutés, alors ils sont allés à Lystre, mais à Lystre, on les a pris d'abord pour des dieux, puis ensuite on a lapidé Paul à Lystre, qui était comme mort, mais il s'est relevé quand on le croyait mort, qu'il a continué avec Barnabas, ils sont allés à Derbe, puis de là, ils sont revenus, et ils ont évangélisé cette contrée qu'ils avaient déjà traversée, puis ils sont retournés à Attalie, et puis au lieu de faire cette boucle, ils sont rentrés par la mer, directement là, à Antioche, d'où ils étaient partis. Ça, c'est le premier voyage de l'apôtre Paul. C'est avec cela que nous avions terminé hier soir. Alors, je voudrais simplement vous dire que dès demain, nous allons, déjà au début du culte, continuer ces études et vous verrez qu'on aura l'occasion de revenir sur les thèmes que vous n'avez pas vus, puisque vous n'étiez pas dans ce temps, mais tout va se lier et à partir de demain, nous allons commencer avec le chapitre 15 des Actes. C'est pourquoi je vous conseille vivement de lire, si vous le pouvez, ces premiers chapitres des Actes pour que vous soyez bien dans le bain. Et s'il y en a quelques-uns, vous avez vos Bibles, j'espère, et vous viendrez toujours avec vos Bibles aux études bibliques. Mais si quelques-uns, ça pouvait leur être utile, nous avons les Actes des Apôtres en français courant que nous vous donnons. Vous pouvez mettre ça dans votre poche et tout en vous promenant, vous pouvez lire ce texte. Ils sont gratuits. Si vous le... Ce n'est pas parce qu'on les a volés, hein, on les a payés, mais on vous les donne gratuitement. Hein. Et il y en a, il reste ça. Si quelques-uns, mais ceux qui ont des Bibles, bien, ils peuvent lire tout cela dans les Bibles. Mais si quelqu'un voulait un de ces opuscules, nous leur donnons volontiers. Et nous disons simplement ceci, vous serez mes témoins. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin ? C'est quelqu'un qui a vu quelque chose ou qui a entendu. Et il peut témoigner que ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu est vrai. Parce que s'il disait des choses fausses, ça ferait un faux témoignage, un faux témoin. Eh bien, le Seigneur désire que nous soyons témoins de ce que nous avons vu et entendu. Alors, qu'est-ce que les disciples avaient vu ? Ils avaient vu qui ? Le Seigneur Jésus. Et ils ont rendu témoignage de ce qu'ils ont vu du Seigneur Jésus. Ils l'ont vu dans sa vie, ils l'ont vu dans sa mort, mais ils l'ont vu aussi dans sa résurrection. Et ils ont été les témoins de sa résurrection, et ils allaient partout dire, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité, et il est monté à la droite de Dieu. Et ce dont ils témoignaient, c'est qu'ils avaient vu des anges au moment où Jésus montait, qui leur ont dit, ce Jésus qui est monté au ciel reviendra. Et nous sommes de ceux qui croient à son retour et qui attendons le retour du Seigneur. Et alors, demain, eh bien, nous commencerons nos études par cette ville mystérieuse dont je parlais aux enfants ce soir, qui est la ville de Jérusalem, où il y a eu le premier conseil. Alors, nous allons partir dès demain de Jérusalem, et nous croyons que le Seigneur nous édifiera. Dieu notre Père, à l'issue de cette heure et de cette ouverture du second camp de famille, nous voulons te demander que tu nous bénisses dans cette première nuit et que nos cœurs soient ouverts et préparés au message que toi tu veux nous donner dans les jours qui viennent et que nous puissions être formés pour devenir nous aussi témoins là où nous sommes des choses que nous aurons vues, et que nous aurons entendu et que nous tiendrons comme certain. Merci d'avoir préservé nos amis qui sont venus de tout accident de route. Merci aussi de la santé que tu veux conserver à leurs enfants et merci aussi de ce que tu veux leur donner toute ta paix au sujet de ceux des membres de leur famille qu'ils ont laissés. Nous les confions à ta protection, ceux qui sont loin comme ceux qui sont près. Et d'un même cœur, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits et nous plaçons ce camp sous l'aspersion du sang de Jésus, afin que nous soyons gardés et bénis. En ton amour. Amen.
Nous empêche de goûter à cette liberté d'aimer. On va regarder ça de près, parce que si nous ne comprenons pas ce qui se passe, on va avoir la difficulté à nous libérer, nous débarrasser de ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe en nous qui fait de sorte que nous sommes la plupart du temps les gens qui travaillent fort pour faire fonctionner la vie chrétienne et qui s'efforcent pour la trouver excitante, plutôt que les gens qui débordent d'une passion pour Dieu et pour la vie, plutôt que d'être les gens qui découvrent un amour passionné et croissant et pour Dieu et pour les autres. Puis mon désir pour moi et pour vous aussi, c'est de devenir un chrétien qui vit sa vie passionnément, qui voit Dieu d'une manière, pas qui m'oblige de faire certaines choses comme cette marionnette, mais qui me libère de courir après lui à cause de quelque chose qui se passe en dedans de moi. Et c'est ce qu'il veut. Et son amour est assez bon et assez puissant pour avoir cet effet dans cette vie, mais il y a quelque chose qui arrive dans nos vies qui fait de sorte que son amour n'a pas cet effet très souvent. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tous goûté à l'amour de Dieu si on est des chrétiens. Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe en dedans de nous qui fait de sorte que plutôt que d'être libéré, d'être un groupe qui aime vraiment de manière puissante les uns les autres, nos cercles chrétiens pour la plupart du temps sont des endroits très plates, très morts. Et excuse-moi si j'exagère, mais je ne pense pas que j'exagère, les endroits où plutôt que de trouver de l'aide, très souvent les chrétiens trouvent plus de fardeau, de dommages plutôt que de l'aide. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut pour son Église. Il veut que ce soit des endroits où les gens sont aimés d'une manière qui les transforme, qui les change. Comme lui, en aimant, il a transformé les gens. Donc je termine avec 1 Jean 3,18 qui dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Avec vérité. Pas comme une marionnette. Une marionnette ne peut pas aimer avec vérité. Avec vérité, ça exige un cœur libéré qui se manifeste. Donc ça va être un peu notre sujet pour la fin de semaine. Bonne nuit, dormez bien, on se verra demain.